Vous êtes bien à l'écoute d'RFI, il est 3h à Paris, 2h temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
Les habitants de Gaza l'attendaient depuis 15 mois. Un accord de trêve est en train d'être finalisé entre le Hamas et Israël. La première phase doit commencer dimanche. Daniel Valo vous explique comment le processus va se dérouler. Au Mozambique, les partisans de Venancio Mondlane n'en démordent pas pour eux. C'est bien lui qui a remporté l'élection présidentielle d'octobre dernier. Pourtant, ce mercredi, Daniel Chapou, le vainqueur officiel, a finalement été investi au cours d'une cérémonie perturbée par les affrontements entre manifestants et policiers. Les autorités allemandes peuvent être bientôt autorisées à abattre les drones indésirables qui observent des sites sensibles. Et puis Elon Musk, visé par une plainte de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers pour son rachat d'une partie de Twitter il y a 2 ans. L'exultation des Gazaouis comme un seul homme à l'annonce d'une trêve ce mercredi entre Israël et le Hamas. Les habitants de Deir el-Bala, dans le centre du territoire palestinien, de Khan Younes, dans le sud, ou de la ville de Gaza, au nord, se sont rassemblés spontanément, drapeau à la main, parfois, pour célébrer la fin annoncée de 15 mois de guerre, durant lesquels 46 700 Palestiniens ont été tués. Cet accord, c'est le fruit d'un long travail de négociation mené par 3 médiateurs principaux, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis. Il doit être décliné en plusieurs phases à présent, avec pour commencer le retrait partiel des troupes israéliennes et un échange de prisonniers palestiniens contre les otages retenus par le Hamas. Daniel Valo.
L'accord entrera en vigueur ce dimanche et la première phase doit durer 42 jours selon les déclarations du Premier ministre qatarien. Dans un premier temps, le Hamas doit libérer 33 otages tandis qu'Israël rendra la liberté à plusieurs centaines de prisonniers palestiniens. Les otages israéliens seront libérés par petits groupes en commençant par les enfants et les femmes. Dans une deuxième phase, un autre groupe d'otages sera libéré et il devrait s'agir cette fois de soldats et d'hommes en âge d'être mobilisés. Parallèlement à cet échange entre Israël et le Hamas, l'accord prévoit un arrêt des hostilités avec un retrait progressif des forces israéliennes et le retour des Palestiniens déplacés vers le nord du territoire. Si tout se déroule comme prévu, une seconde phase entrera en vigueur au bout de 6 semaines, seconde phase qui devrait aboutir au retrait complet des troupes israéliennes. Resterait alors à régler d'autres questions concernant l'après-guerre, la reconstruction de Gaza et bien sûr le sujet le plus difficile, celui de la gouvernance du territoire, Benjamin Netanyahou ayant déclaré à plusieurs reprises qu'il refuserait d'accepter que Gaza soit dirigé par le Hamas ou même par l'autorité palestinienne.
Daniel Valo, l'annonce de cet accord de trêve à Gaza a engendré un déferlement de réactions à l'international. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a salué une première étape cruciale, mais averti. Il est impératif que ce cessez-le-feu lève les obstacles à l'acheminement d'aide humanitaire. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, appelle sur le réseau social X les parties à mettre en œuvre pleinement cet accord. La main ferme du Frelimo se resserre un peu plus sur le Mozambique. Daniel Chapou a été investi ce mercredi en tant que 5e président de la République et prolonge donc l'emprise du parti au pouvoir depuis près de 50 ans dans ce pays. Sauf que Venancio Mondlane, le principal opposant mozambicain, conteste toujours les résultats de l'élection présidentielle. Il avait appelé à 3 jours de grève nationale et la cérémonie s'est donc déroulée dans une atmosphère extrêmement houleuse, Lisa Fabian.
En costume 3 pièces, Gabriel Mukumani est venu à pied jusqu'à la place de l'Indépendance. Aucun barrage de police ne lui aurait fait manquer la cérémonie. C'est un fervent partisan de Daniel Chapou.
Si la majorité des Mozambicains l'ont choisi, c'est que Daniel Chapou a toutes les capacités nécessaires. De plus, les cadres du parti Frelimo ont déjà démontré qu'ils peuvent contribuer au développement de ce pays.
Après avoir prêté serment, Daniel Chapou demande une minute de silence pour les victimes du cyclone Chido et surtout pour ceux qui ont trouvé la mort pendant les manifestations des derniers mois.
Ce silence nous rappelle le poids de notre responsabilité, mais aussi la grande force de notre nation. Unis, nous sommes capables de surmonter les obstacles et de transformer notre douleur en prospérité.
À quelques centaines de mètres de là, des groupes de manifestants se forment. Très vite, la police tire. Réfugié dans une rue adjacente, Basilou Pache ne décolère pas.
C'est une aberration. On a deux présidents, un pour le peuple et un pour le Frelimo. Mais on ne s'arrêtera pas. Ils ne nous gouverneront pas. Pas le Frelimo. Pour eux, le peuple, ce sont des mendiants. Je n'ai pas peur. Qu'ont-ils fait de moi ?
Selon la plateforme de la société civile Décide, 7 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre à Maputo et Nampula au moment où se déroulait cette cérémonie d'investiture.
Lisa Fabian, leur bourdonnement parasitait de plus en plus le ciel allemand. Les drones suspects pourraient désormais être abattus par la police. Le Conseil des ministres vient en tout cas d'adopter une mesure dans ce sens ce mercredi. Pourtant, jusqu'à présent, les forces de l'ordre étaient souvent impuissantes, quand bien même bon nombre de ces engins volants avaient été aperçus récemment au-dessus de sites sensibles, Pascal Thibault.
La base américaine de Ramstein, les centres d'entraînement de soldats ukrainiens, des sites de la Bundeswehr, mais aussi un parc chimique, il ne se passe quasiment pas une journée sans que des drones indésirables ne survolent des lieux sensibles en Allemagne. Il s'agit d'un véritable danger, particulièrement pour nos infrastructures critiques. Nous ne nous laissons pas intimider et nous faisons face à la menace actuelle, a déclaré la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser. La puissance de certains drones leur permet d'être téléguidés depuis l'étranger. La Russie est souvent suspectée dans le cas de la guerre hybride menée notamment contre l'Allemagne. La police n'est pas forcément équipée pour attaquer ces drones et la Bundeswehr ne peut que les obliger aujourd'hui à atterrir, les repousser ou les menacer. Le projet de loi adopté en Conseil des ministres doit permettre à l'armée allemande d'abattre des drones à l'avenir si la police n'est pas en mesure de le faire. Il n'est pas encore sûr que le texte puisse être adopté par le Parlement avant les législatives du 23 février. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Aux États-Unis, la SEC, l'autorité américaine de régulation des marchés financiers, dépose plainte contre Elon Musk pour son rachat d'actions de Twitter en mars 2022. C'était le premier pas du milliardaire avant de mettre entièrement la main sur la plateforme. Explication signée Myriam Berber.
Le gendarme boursier américain accuse Elon Musk d'avoir violé les règles de transparence lors d'acquisition d'actions Twitter. Elon Musk n'a pas déclaré en temps voulu l'achat de plus de 5% d'actions en mars 2022, indique dans sa plainte l'autorité publique. En ne divulguant pas cette acquisition dans les délais impartis, le milliardaire a pu acheter ses actions à un prix inférieur à leur véritable valeur. L'opération a ainsi permis à l'homme d'affaires d'économiser près de 150 millions de dollars. Pour son avocat Alex Spiro, l'autorité publique n'est pas en mesure de présenter un dossier solide. De son côté, Elon Musk a réagi dans un tweet sur X et qualifie la SEC d'organisation totalement défaillante qui perd son temps avec des idioties alors que des crimes restent impunis. Il estime être victime de harcèlement car en octobre 2023, la SEC a déjà déposé plainte contre lui. Elle voulait l'obliger à témoigner dans le cadre de son enquête sur le rachat de Twitter.
Myriam Berber qui évoquait donc à l'instant Twitter, devenu X et régulièrement critiqué par ses détracteurs comme un relais de fausses informations sensibles et directement la plateforme. Joe Biden a mis en garde lors de son discours d'adieu à la nation ce mercredi contre l'avalanche de désinformation sous laquelle les Américains seraient ensevelis selon lui. Le dirigeant démocrate qui a également dénoncé de puissantes forces qui luttent contre le changement climatique. La lutte contre le réchauffement de la planète, qui pourrait passer par la capture de carbone, c'est en tout cas ce que soutiennent ses promoteurs. Mauvaise nouvelle pour eux, l'entreprise championne de cette technologie en Europe a publié des résultats tronqués. Selon une enquête du collectif Desmog, Equinor stockait 100 000 tonnes de CO2 par an. Pourtant, le groupe pétrolier norvégien affichait un total 10 fois plus élevé grâce aux soi-disant prouesses de l'un de ses sites, Simon Rosé.
Sleipner est un champ gazier offshore, une plateforme en mer du Nord opérée par Equinor, un projet phare pour le géant norvégien des hydrocarbures, le premier de grande ampleur au monde à être équipé d'un système de stockage et captage de carbone. Les rejets de CO2 de l'exploitation sont attrapés et enfouis avant de rejoindre l'atmosphère. L'émission d'un million de tonnes par an ont ainsi été évitées selon Equinor, mais voilà, en réalité, il faut diviser par 10 pour obtenir le véritable chiffre, conclusion d'une enquête du collectif d'investigation Desmog. Conclusion à laquelle s'est rangé Equinor, qui plaide une erreur d'actualisation de son site internet pour expliquer ses affirmations trompeuses. Une affaire qui fait mauvais genre pour les promoteurs de la technologie de captage et stockage de CO2, malgré le fort soutien que lui accordent les géants du secteur des hydrocarbures. On les comprend, pourquoi s'embêter à réduire les émissions de dioxyde de carbone s'il suffit de le capter et de le séquestrer. Mais voilà, et l'affaire Equinor en témoigne, l'efficacité de cette technique est loin d'être avérée. Le secteur ne ménage pourtant pas ses efforts, environ 500 de ses ses lobbyistes étaient accrédités lors de la dernière COP29 sur le climat il y a 2 mois en Azerbaïdjan.
Précision de Simon Rosé, RFI, 3h10 à Paris, 2h10 temps universel.